Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. L'intime, voilà le thème de cette nouvelle série, nouvelle formule de règlement de compte en compagnie du docteur Dominique Desmichel. Cet intime que nous ressentons en chacun de nous, comme un espace inviolable, protégé par les tours vaubans du savoir-vivre ou de la pudeur, cet intime donc, si intimement lié à la question du moi et de l'identité, ira-t-il jusqu'à nous offrir l'occasion de nous interroger sur le sens même de l'existence? Pour explorer ce thème de l'intime, nous nous appuierons sur le dossier de la revue Archipel, revue proposée par l'association Jalma, Jusqu'à la mort, accompagner la vie, mais aussi sur le mythe d'Eros et de Psyché, Eros ou Cupidon ou l'amour, c'est vous qui choisirez. Un roi avait trois filles, dont la plus jeune, Psyché, était d'une telle beauté qu'elle était comparée à Vénus elle-même, qu'elle aurait égalé et même surpassé. Les hommes se mettaient en route du monde entier pour venir lui rendre hommage. Ils allaient jusqu'à dire que Vénus elle-même ne pouvait rivaliser avec cette mortelle. Et tandis que de plus en plus nombreux, ils se pressaient autour d'elle, plus aucun d'eux n'accordait une pensée à Vénus. Les temples de la déesse étaient négligés, ses autels recouverts de cendres froides, désertés, ses villes consacrées tombées en ruine, tous les honneurs qui lui avaient été jusqu'à réservés allaient maintenant à une simple jeune fille destinée à mourir un jour. La déesse, on s'en doute, ne pouvait accepter pareille façon d'agir. Comme à chaque fois qu'elle se trouvait dans l'embarras, elle requit l'aide de son fils que d'aucuns appellent Cupidon et d'autres l'amour, et contre les flèches duquel il n'existe aucune défense, pas plus au ciel que sur la terre. Elle lui dit ses griefs et, comme toujours, elle le trouva prêt à obéir à ses ordres. « Use de ton pouvoir, lui dit-elle, et fais en sorte que cette petite effrontée s'éprenne follement de la plus vile, de la plus méprisable créature qui soit au monde. » Il l'aurait fait bien certainement si Vénus, perdant de vue dans sa fureur jalouse ce que tant de beauté pourrait inspirer même au dieu de l'amour, ne lui avait d'abord montré Psyché. Lorsqu'il la vit, ce fut comme si lui-même s'était percé le cœur d'une de ses propres flèches. Il ne dit rien à sa mère. En vérité, il n'avait plus la force de proférer un mot, et Vénus le quitta persuadé qu'il mènerait rapidement Psyché à sa perte. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Vous venez comme moi d'entendre cet extrait du mythe d'Eros et Psyché, Cupidon et Psyché, dans une version d'Edith Hamilton aux éditions Poche Marabout. Docteur Dominique Desmichel, c'est notre deuxième émission sur Eros et Psyché. Nous avons quand même pas mal défriché il y a 15 jours sur le thème de l'intime. Et nous voilà avec ce mythe face à un problème qu'il va falloir résoudre. Le mythe va tenter de le résoudre et on le sait, il se terminera plutôt bien. En tout cas, c'est quand même un paradoxe, cette Psyché qui est d'une très grande beauté et qui pourtant ne trouve personne avec qui se marier, et surtout qui la colère des dieux va tomber sur elle à cause même de cette beauté.
Mmh.
C'est étonnant pour une mortelle. D'ailleurs, Vénus elle-même est totalement surprise qu'une simple mortelle puisse être capable de cela.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je vous propose qu'on essaye de reprendre peut-être les trois personnages dont on a parlé ici. Hein. C'est-à-dire, moi, je préfère dire Eros plutôt que Cupidon, parce que Cupidon, c'est l'espèce de petit personnage un peu joufflu, là, qui ne fait pas très, très sérieux, alors que Eros, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant dans nos vies quotidiennes, pour nous tous. Hein. C'est, en gros, c'est ce qui fonde l'essentiel de la relation, hein, c'est-à-dire l'érotique, pas simplement dans le sens sexué ou sexuel, mais aussi dans ce qui nous pousse à aller dans la relation, voilà, et dans quelque chose qui est extrêmement pulsionnel. On va le revoir, et il me semble que Eros, il représente quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion. Donc trois personnages. Eros, je vais en dire un petit mot peut-être sur son histoire, en tout cas dans la mythologie grecque. Deuxièmement, Psyché. On en a pas mal parlé à la première émission.
Et on y reviendra au cours de toutes ces émissions, évidemment.
En tout cas, pour comprendre ce qui se passe au fond, dans sa tête, dans son corps, donc dans son intimité, absolument. Et puis Aphrodite. Alors, si on reprend un tout petit peu ces trois personnages, ce que je vous propose peut-être, c'est de reprendre pour l'histoire d'Aphrodite. Alors, l'histoire d'Aphrodite, c'est quoi ? Dans le texte de la Théogonie d'Hésiode, c'est-à-dire c'est ce grand texte qui raconte comment sont nés les dieux grecs, rappelons à nos auditeurs que les deux premiers personnages principaux qui interviennent, en tout cas dans cette mythologie, c'est Ouranos, le ciel, et puis Gaïa, la terre. Et à cette époque-là, il y a déjà une sorte de petite Eros qui est là. Et pour nos auditeurs, c'est bien important de se dire que c'est pas du tout le même Eros qu'on va retrouver plus tard. Là, c'est un espèce d'Eros qui est complètement indifférencié. C'est un dieu qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas d'histoire, qui est au fond une espèce d'énergie. Hein. C'est une énergie vivante. Première génération, le ciel et la terre, hein. Ouranos et puis Gaïa. Deuxième génération, Chronos. Chronos, c'est C-R-O-N-O-S, il n'y a pas de H. Hein. Il y a un très très beau texte de Cicéron qui explique sur le plan symbolique pourquoi à un certain moment on va rajouter le H. Si ça vous dit, on en reparlera. Mais ici, c'est Chronos, hein, c'est-à-dire en gros, c'est la même chose toujours que le ciel, on va dire. Hein. Ce n'est pas tout à fait Ouranos, mais c'est le ciel. Et puis Rhea, et là encore, Rhea, c'est la terre aussi. Voilà. Et puis, il y a une troisième génération avec Zeus. Et alors là, je ne vais pas commencer à énumérer toutes ces conquêtes parce qu'on est parti pour la journée et la nuit.
Et je rappelle à nos auditeurs que nous avons cette émission sur la trace des mythes grecs, faite par Marvin, qui reprend dans le détail tous ces mythes que vous retrouverez sur le site de Radio Grand Ciel et sur nos ondes.
Voilà. Alors, le problème dans cette famille, c'est que quand il y a des parents et qu'il y a des enfants, en gros, les pères, ils n'ont pas du tout envie que leurs enfants prennent leur place. On va retrouver ça dans énormément de mythes, même par exemple dans l'histoire des conflits qu'il y a entre Prométhée et Zeus. C'est aussi une histoire compliquée.
C'est le problème de l'immortalité.
Vous allez un peu vite là.
On laisse pas la place à nos enfants.
Exactement, exactement. Vous avez tout à fait tout compris, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une génération d'après, ça veut dire il y a de l'espace, il y a du temps. Et en gros, s'il y a une génération d'après, ça veut dire que moi je vieillis. Et donc si je vieillis, c'est que je vais mourir et je laisse la place. Donc les dieux, là, ils se disent « Ok, je copule avec ma déesse, éventuellement elle a des gosses, je m'en fous, mais elle se les garde dans le ventre, et puis surtout, je ne veux pas en entendre parler. » Alors, chaque génération va au fond essayer de se débrouiller comme ça. C'est-à-dire, il va y avoir une sorte de meurtre du fils par rapport au père. Freud a largement repris ça, on retrouve ça dans le mythe d'Œdipe, même si je crois que, je ne sais pas, la même interprétation que les Freudiens là-dessus, ou en tout cas, il y a lieu de le prendre dans un sens plus large. Toujours est-il que pour revenir à notre histoire, à un certain moment, il va y avoir Chronos qui va aller châtrer son père Ouranos. Donc il y a sa mère qui lui a donné une petite serpe là, et puis il va aller couper les génitoires de son père, et dans le mythe, les génitoires de son père vont retomber, parce que ça se passe sur l'Olympe, bien évidemment, tout le monde sait où est l'Olympe, c'est un petit peu là-haut, ses organes génitaux vont retomber sur terre, sur une plage particulière de l'île de Crète dans la légende, la plage d'Aphrodite, et ça tombe de haut comme ça, donc ça fait une espèce d'énorme écume. Et l'écume, c'est en grec, c'est Aphros. Voilà, donc Aphrodite, elle naît de là. Donc elle est en quelque sorte la fille qui naît des organes génitaux de son père Uranos. Voilà. Alors, il y a un lien avec Eros, c'est compliqué, parce que Aphrodite et Eros, c'est à la fois le mari et la femme, le frère et la sœur, un peu les amants. Dans notre histoire, en tout cas, ici, Aphrodite-Vénus, c'est la mère de Cupidon, Eros. Voilà, donc on le garde dans cette histoire-là. Voilà pour ce personnage. Et puis, on peut continuer notre histoire.
Alors, je disais, docteur Demichel, que Psyché se trouve face à ce problème. Et est-ce que c'est un problème, pour nouer avec notre thème, est-ce que c'est un problème de l'intime, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème avec sa propre intimité qu'elle n'a pas réussi à partager, justement ?
Oui, on avait dit tout à l'heure que tout le monde, enfin vous avez dit dans le conte que tout le monde venait voir Psyché, on délaisse les temples d'Aphrodite et que Aphrodite ou Vénus, hein, c'est la même chose, va devenir furieuse. Et je crois qu'il y a lieu de penser que Aphrodite, elle est toutes les images que nous avons en tête par rapport à une espèce de beauté séculaire et divine, comme vous le disiez, ou immortelle, comme vous le disiez lors de la première émission, et que Psyché, c'est celle qui porte quelque chose, non pas au niveau divin, mais au niveau du corps, de cette présence d'une beauté, hein, totale. Et évidemment, c'est quelque chose de difficile. Alors on comprend bien qu'Aphrodite, où il y avait tous les hommes qui venaient lui rendre d'un culte, ça se passe pas bien. Et je pense qu'il y a lieu de se dire que ce que Psyché va découvrir, c'est le passage, je dirais par exemple, de la beauté au charme. Le mot du charme, vous aviez dit avant qu'on commence l'autre émission, vous aviez dit oui, il y a ces actrices-là, de temps en temps elles sont très très belles, mais elles n'ont pas beaucoup de charme. Puis il y en a d'autres, vous en aviez cité une ou deux, qui n'étaient peut-être pas particulièrement canons, mais qui avaient au fond beaucoup de charme. Et finalement, ce charme, ça nous enchante beaucoup plus. Hein. On est là comme les sirènes hein, qui sont... ou les poissons dans notre monde, mais dans l'histoire d'Ulysse, je vous rappelle que ce sont des oiseaux, hein, et Ulysse se fait attacher au mât pour ne pas succomber au charme de ces sirènes. Et le mot charme, je crois en tout cas, il vient du mot carmen, et le mot carmen en latin, ça veut dire le chant magique. Voilà, hein, donc le chant magique, c'est... Voilà. Donc je pense que du côté de son intime, en fait, Psyché, elle va faire une expérience particulière. Elle va faire l'expérience qu'elle incarne quelque chose, mais qu'au fond, elle n'est pas reliée et qu'elle n'est pas à même de déployer son propre champ magique.
Alors, avant de voir cette expérience, l'état dans lequel Psyché se trouve au début du conte, dans son intimité, il y a des mots qui vont résonner avec intimité. Vous parlez de silence, de solitude.
Oui, je crois que dans le accéder en tout cas à sa propre intimité, c'est faire l'expérience d'être soi. Hein. Là, dans cet espace-là, il y a quelque chose de notre profondeur dans un territoire qui nous est à la fois familier, mais aussi en même temps étranger. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans l'intime que nous connaissons bien, c'est-à-dire je sais bien, par exemple, ce qu'il en est de mes blessures intimes, par exemple. Hein. Voilà, je les connais bien. Il y a des lieux dans lesquels je ne suis pas dans un espace de confort. Il y a, je sais par exemple que je peux être timide ou que je peux être, peut-être dans mon extime, ça ne se voit pas que je suis timide. Mais dans mon intime, je sais que je suis timide et si je suis amené, dans certaines circonstances, à ne pas être dans un espace familier pour moi, alors cet intime va se rappeler à moi et me dire que je suis timide. Pourtant, je le sais, je suis moi, je me sens moi, je connais la continuité de moi-même, je connais la continuité de mon histoire, de ma mémoire, quand bien même c'est plein de trous, d'oubli, en particulier quand on était petit. Et puis, dans cet espace-là, qui est donc à la fois petit, restreint, familier à moi-même, et en même temps très vaste, très, presque infini, comme si c'était à la fois une sorte de jardin secret clos de murs, avec juste une seule porte, voire pas de porte. Mais s'il y a une porte, je suis seul à en avoir la clé. Et s'il n'y a pas de porte, je suis le seul à pouvoir traverser le mur. C'est un espace très clos. En même temps, on retrouve, vous l'avez dit, une sorte de radicale solitude. C'est-à-dire dans cette intime qui se joue entre moi et moi, je vais décider de mes choix, des actes que je vais poser, de ceux que je vais choisir de rencontrer. C'est là que s'enracine le désir pour l'autre, le désir ou la haine, hein, enfin l'amour ou la haine par exemple, mais où je vais décider de ces actes qui engagent. Donc je crois que dans cet intime, il y a une familiarité, il y a une étrangeté, et puis il y a surtout l'expérience qu'on est seul dans ce jardin secret, dans ce jardin intime, d'où une incertitude, une fragilité, une grande potentialité et quelque chose qui se vit au quotidien.
Oui, c'est ça. Je voulais insister sur cette incertitude et cette fragilité dans laquelle se trouve, on imagine, Psyché au début du conte. Oui. Cette incertitude qui est liée à la question, finalement, qui suis-je ? Qui est la question au cœur de l'intime ?
Alors, on peut penser que pour Psyché, ce qui lui manque, c'est ce charme. Hein ? C'est-à-dire, elle serait au fond celle qui serait dans une sorte... Alors moi, je verrais bien un Psyché comme étant d'une beauté absolument extraordinaire, mais plutôt glaçante et plutôt silencieuse. Je ne la vois pas. Ou je me disais que... Enfin, je me dirais là sur l'instant que si j'avais à discuter avec Psyché, très vite, on ne saurait pas trop quoi se dire. Elle n'aurait pas grand-chose à me dire. Et que peut-être si j'essayais de déployer mes charmes, ça ne marcherait pas, et qu'elle n'arriverait pas à avoir une parole dans le sens général, ça peut être la parole du corps aussi, hein, une parole qui viendrait avoir, enfin, se transformer dans cette étymologie mot charme, c'est-à-dire le chant ensorcelant, le chant magique qui va créer du lien. Donc probablement, il y a à l'intérieur d'elle-même quelque chose auquel elle n'a pas accès. Elle a une extériorité extraordinaire et elle a une intériorité auquel peut-être elle n'a pas accès, en tout cas dans cette capacité à déployer son propre champ magique.
Les choses, toutefois, se passèrent bien autrement qu'elle n'y comptait. Psyché ne s'est pris nullement d'un scélérat. En fait, elle ne s'est pris de personne, et chose plus étrange encore, personne ne s'est pris d'elle. Les hommes se contentaient de la contempler, de l'admirer, de l'adorer, puis passer et en épouser une autre. Ces deux sœurs, bien qu'infiniment moins séduisantes, avaient fait des mariages splendides. Chacune d'elles avait trouvé un roi pour mari. Psyché, la toute belle, restait triste et solitaire, toujours admirée, jamais aimée. Aucun homme, semblait-il, ne la voulait pour femme. Ceci, bien entendu, était une grande cause de souci pour ses parents. Son père se rendit finalement auprès d'un oracle d'Apollon pour demander le moyen de trouver un bon mari pour Psyché. Le dieu consentit à répondre, mais ses paroles furent terribles. Après lui avoir raconté toute l'affaire, Cupidon, lui aussi, était venu implorer son aide. En conséquence, Apollon décréta que Psyché, vêtue d'habits de deuil, devait être menée sur le sommet d'une colline et y rester seule. Là, le mari qui lui était destiné, un serpent ailé terrifiant et plus fort que les dieux eux-mêmes, viendrait à elle et ferait d'elle sa femme. docteur Dominique Desmichel, venez comme moi d'entendre encore un extrait de ce conte d'Eros et Psyché par Edith Hamilton. Alors, ben voilà, nous avons ce que nous avions dit tout à l'heure, hein, Psyché, toute belle, restée triste et solitaire, toujours admirée, jamais aimée. Est-ce que ça pourrait être une patiente de votre cabinet, docteur Dominique Desmichel ? C'est terrible pour...
Oui, moi je crois. Hein. Je me souviens, j'ai vu, ça fait plus de 3 décennies hein, que je fais ce travail-là, et je me souviens très bien avoir vu deux femmes qui étaient comme ça, je dirais, il me semble, dépsychées. Hein. C'est-à-dire, donc une femme qui avait peut-être, je ne sais plus très bien, je dirais 35 ans ou 40 ans, Et qui était peut-être à son 4e ou 5e conjoint. Et ce qui était terrible, si vous voulez, c'est que cette femme d'une très grande beauté, elle avait du mal à établir une vraie relation affective. Alors, je pense que là, on n'est pas tout à fait dans l'histoire de Psyché. Je pense qu'elle, elle y était pour rien, probablement. Elle était très très belle, et ce qui est très très problématique chez les femmes très très belles, c'est qu'elles sont regardées comme des objets. C'est-à-dire là, on n'est pas dans une espèce de beauté surnaturelle, divine, on est quand même dans une beauté très très humaine, mais une beauté qui vient essentiellement solliciter chez les hommes leur pulsion, hein, leur pulsion de désir, leur pulsion presque de consommation. Et au fond, ces femmes, elles se promènent en ville et elles croisent 10 hommes, et dans les 10, il y en a 9 qui se retournent, si vous voulez. Hein. Alors, un qui se retourne, c'est pas désagréable. 2 passent encore. Au-delà, c'est un peu agaçant. Mais quand il y en a 9/10, c'est insupportable parce qu'on est réduit à sa beauté plastique, vous voyez. Et donc, elle, finalement, elle avait toujours rencontré des hommes qui l'aimaient essentiellement pour sa plastique, et c'était quelque chose de terrifiant parce qu'il n'y avait pas autre chose qui se passait. Et puis je me souviens d'une autre que j'ai vue, elle, par contre, très très peu de temps, qui était beaucoup beaucoup plus jeune, qui avait une histoire un peu terrible, et je pense qu'on n'a pas fait beaucoup de travail ensemble, et je ne suis pas très très sûr qu'elle ait réussi après, enfin je lui souhaite, je l'espère, mais je ne suis pas très très sûr, en tout cas à court terme, qu'elle ait pu trouver une vie heureuse dans un espace relationnel vraiment affectif, c'est-à-dire amoureux. Donc, on est devant cette pauvre Psyché, et là, qu'est-ce que nous raconte cette histoire ? Ben, qu'on va faire un espèce de simulacre de quelque chose qui a l'air d'être un mariage et qui ressemble à un enterrement, en fait. Hein, hein, puisqu'au fond, elle est en habit de mariée, on va la mettre sur un rocher. Alors ici, il parle de colline, mais il me semble qu'il y a une histoire de rocher, parce que dans la peinture, par exemple, aller au Louvre, je suis sûr qu'il y a au moins 2 ou 3 représentations d'histoire d'Eros et Psyché. Et elle est attachée à un rocher, et puis on attend qu'il y ait un monstre qui vienne...
Un serpent, il est terrifiant, voilà. Plus fort voilà. Que les dieux eux-mêmes.
Voilà. Donc vous voyez, moi je pense que là, il y a bien lieu d'entendre qu'elle représente quelque chose qui est d'une très grande beauté, et elle va à la rencontre de quoi ? Ben, quelque chose qui est tout à fait exactement l'opposé. Hein.
Alors si on entend bien le texte, avant d'en arriver au serpent ailé, nous avons Eros qui échoue finalement. L'échec d'Eros à la rendre amoureuse du plus vil des hommes. Et Eros qui demande l'aide d'Apollon finalement, ou en tout cas le conseil d'Apollon pour se débarrasser de Psyché puis obéir finalement à sa mère, Aphrodite.
Oui, ce qui me semble, c'est que dans ce début du conte, en effet, il y a quelque chose autour de l'amour, hein, de l'amour impossible. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour possible pour Psyché. Hein, personne ne vient lui dire je t'aime, et que l'autre thème, c'est la mort. La mort est là juste derrière. Donc, la seule possibilité, et on voit ça dans une grande partie des mythes, et on voit ça dans absolument tous les contes, il va y avoir un passage par la mort. Hein. Donc, au fond, ce mariage ressemble à un enterrement, et ça ressemble à une mort. C'est-à-dire, l'oracle lui dit qu'il n'y a rien à faire, et que la seule possibilité, c'est qu'elle meure. Alors, nous avons l'habitude d'entendre que, ici, mourir, ça veut dire... changer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Et on va voir au fur et à mesure qu'elle va premièrement faire une rencontre, deuxièmement, avoir des problèmes dans cette rencontre, troisièmement, se confronter à la figure d'Aphrodite, quatrièmement, passer un certain nombre d'épreuves, cinquièmement, encore mourir, puisqu'elle va descendre aux enfers, hein, vous avez raconté lors de la première émission la globalité de l'histoire, et c'est simplement lorsqu'elle va vraiment complètement mourir, voilà, elle disparaît complètement, que Eros va la retrouver, lui il est guéri de ses propres blessures, hein, de l'histoire de la petite huile bouillante, et ils vont se retrouver à la fin. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'un vrai parcours initiatique ici, qui passe par une série de morts successives qui vont permettre à Psyché de renaître à elle-même, c'est-à-dire de retrouver profondément la globalité de son intériorité.
Alors avant d'accéder à cette rencontre entre Eros et Psyché, j'aimerais qu'on conclue cette émission sur l'intime, j'aimerais dire cet intime fermé en nous, qui correspond à l'état de Psyché, avec... d'autres éléments qui font partie de l'intime, comme le souvenir par exemple, et aussi comme toutes ces rêveries qui nous habitent. On dit que Psyché est une femme solitaire, on l'imagine rêveuse à sa fenêtre et puis s'imaginer des vies, mais on sait bien que la rêverie malheureusement nous éloigne parfois de la réalité et parfois de manière tragique même.
Je sais pas si j'emploierais le mot souvenir.
Les souvenirs font pas partie de notre intimité.
Je dirais plutôt la mémoire. Hein, la mémoire, c'est pas la même chose parce que, enfin, dans la façon dont j'utilise le mot, je suis pas sûr que ce soit très pertinent en fait. Mais pour moi, les souvenirs, ce sont des choses qui sont un peu figées, qui sont comme des photographies. Voilà. Le souvenir, c'est la photo que j'ai sur la cheminée et où il y a mes grands-parents ou comme pour moi par exemple dans la maison de vacances où mes quatre grands-parents ils sont tous en photo. Ça, ce sont des souvenirs. La mémoire, c'est autre chose. La mémoire, c'est la façon dont je peux parler de mon grand-père et de me dire combien c'est lui qui m'a appris à travailler le bois, de ma grand-mère qui avait son caractère pas toujours facile, mais alors pour nous faire des ratatouilles absolument délicieuses ou nous faire des petits plats comme ça, c'était tout à fait extraordinaire. Donc vous voyez, les souvenirs, ce sont des choses qui sont une sorte de contenu matériel, tandis que la mémoire, c'est quelque chose qui est plus du côté de l'émotion. Et surtout, la mémoire, c'est notre présent intérieur. Donc, en effet, dans cet intime, il y a la globalité de notre mémoire. Alors, par rapport à l'autre thème, qui est la question de l'imaginaire, j'aurais assez tendance à penser, en effet, que le terreau le plus profond, le plus archaïque, je dirais plutôt le plus profond, peut-être faudrait se méfier après sur les mots, l'archaïque, c'est pas tout à fait la même chose, de notre imaginaire, c'est en effet cet intime. Alors en même temps, l'imaginaire, il se déploie entre nous et nous, hein, voilà, on le voit dans nos rêveries, dans notre rêve éveillé, dirigé ou spontané, il se déploie évidemment dans le rêve de manière absolument extraordinaire, mais il se déploie aussi, ça c'est donc dans l'intime de nous-mêmes, hein. Les rêves on peut les raconter à tout le monde ces rêves, puisque de toute façon personne ne comprend, hein. Donc il n'y a rien de plus intime, mais c'est comme si on parlait une autre langue. Mais cet imaginaire, il se déploie aussi dans la relation, hein. Voilà, parce que au fond, vous, dans vos questions, vous venez aussi susciter chez moi un imaginaire, et au fond, c'est comme si on co-découvrait ensemble une possibilité de lire cette histoire.
Docteur Dominique Michel, je vous propose de nous quitter là-dessus et justement de revenir dans 15 jours sur cette rencontre de l'autre qui va peut-être fissurer cette muraille de l'intime et permettre une connaissance de soi et peut-être même une connaissance plus vaste. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous aussi. Au revoir.